Bonjour Alexandre.
Salut Frédéric.
Donc, le désormais huitième épisode de ce podcast sur le TechLash que l'on titre Est-ce la semaine de la vérité? Pourquoi la semaine de la vérité? Parce qu'on va avoir Mark Zuckerberg qui se présente devant le Congrès des États-Unis. Mais on a, et ça va être notre premier point, et d'habitude on vous partage des articles, hein, on va partager un lien vers un documentaire qu'Alexandre va nous présenter sur l'intelligence artificielle et la question finalement qu'il pose, est-ce que les plateformes ont perdu le contrôle?
Oui, en fait, ce doc fait suite à l'appel d'un certain nombre de sommités, dont Elon Musk, pour un meilleur contrôle de l'intelligence artificielle. Et en le regardant tout à l'heure, je me suis posé la question, pas finalement la deuxième ou la troisième vague qui viendra dans le TechLash, parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a évidemment les armes autonomes qui font peur à tout le monde. On voit déjà les dégâts des drones, mais on peut imaginer d'autres scénarios absolument catastrophiques. Il y a aussi la question de l'intelligence artificielle utilisée par les plateformes. Et ils prennent spécifiquement, il est très récent ce doc, l'exemple du newsfeed de Facebook, en posant la question très brutalement, finalement, est-ce que ce n'est pas la première illustration d'une perte de contrôle de l'individu, comment dire, programmeur sur la machine? Il est strictement impossible à ceux qui ont programmé, à ceux qui ont construit l'intelligence artificielle du newsfeed de Facebook, de le contrôler. Et c'est presque à la fin de la présentation, au bout d'une heure de doc, que la question revient. Il y a une présentation de Alexander Nix, le fameux PDG de Cambridge
Cambridge
Analytica, qui a
Analytica.
été viré, qui a été viré. Finalement, l'élection de Donald Trump et le Brexit, comme nous l'avons démontré sur Spicy, doivent énormément à l'intelligence artificielle. Et une des conclusions, c'est de dire que tous ceux qui pourront essayer de l'utiliser le manipuleront. La question qui se pose pour les plateformes, c'est, et c'est vrai pour Google aussi, c'est est-ce qu'elles n'ont pas finalement ouvert la boîte de Pandore qu'elles ne contrôlent plus?
Alors c'est un point de vue effectivement très intéressant et je parle ici à Montréal, une des capitales de l'intelligence artificielle où et les grandes plateformes et le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral canadien investissent énormément d'argent. On est là en effervescence hein, ici dans la ville autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle et si tu me permets. La métaphore, c'est un petit peu comme les premiers ébats amoureux, tout le monde en parle, personne ne l'a fait. c'est-à-dire qu'on parle de ça comme le Graal, mais il y a très très peu de projets publics en fait, qui sortent. Et tout le monde voit que c'est une direction vers laquelle il faut aller, mais on ne se pose pas les questions que ce documentaire a l'air de poser, c'est-à-dire quel est le contrôle finalement derrière tout ça? Donc,
Et quelle est l'éthique?
quelle est l'éthique? Y a-t-il une éthique? Y a-t-il une éthique derrière ce nouvel outil? Mais je voudrais rebondir sur le point spécifique du newsfeed, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et est-ce qu'on n'est pas finalement en train de voir bah, que Zuckerberg, Sandberg et leurs équipes, bah, ils ont perdu le contrôle, ils n'arrivent pas à le dire, ils n'arrivent pas à le verbaliser. Mais le jour où ça va sortir, ça sera intéressant de voir la courbe du cours de bourse de Facebook, qui, comme tu disais, bah, a ouvert la boîte de Pandore. Mais finalement, des machines qui parlent à d'autres machines pour servir l'humain que nous sommes, bah, sans aucun contrôle et sans les curseurs finalement.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est clair dans le doc, et c'est très bien documenté, c'est que c'est très difficile de faire la différence entre une fake news et une vraie news, et que les machines et les programmations qui ont poussé à ce qui est la meilleure optimisation possible, le meilleur engagement, finalement, ont fait tout à fait très bien leur travail, hein, au point de pousser les fake news efficaces, plus efficaces que les vraies news. Et personne ne l'a vu. Sauf ceux qui ont utilisé la machine et qui n'avaient absolument aucun intérêt à le dénoncer, puisque c'était encore plus efficace qu'auparavant. Donc c'est une démonstration assez impressionnante, en plus très bien faite visuellement, parce qu'elle vient après plusieurs exemples qui montrent les limites. On entend notamment le fameux Kurzweil et d'autres. Donc c'est un très bon doc, un peu long, mais je pense qu'il va circuler et qu'il va sans doute populariser un certain nombre des thèmes qui sont ceux de ceux qui ont voulu prévenir des risques de l'AI. Et en fait, c'est la régulation de l'industrie de l'intelligence artificielle dont il est question. Et donc, on en est peut-être au début sans le savoir.
Alors, avant de passer au point 2, je voulais juste faire une incise intéressante, je pense, sur qu'est-ce qu'une fake news, comment reconnaître une fake news. Et mon antienne, tu la connais, ceux qui nous écoutent, pour certains, la connaissent, c'est Everything Old is New Again. J'ai lu cette semaine un petit papier sur Don Quichotte et Cervantes, qui lui-même a été frappé, Cervantes, de fake news, entre guillemets, à son niveau, puisque après le premier Don Quichotte, il y a une suite qui est sortie l'année suivante, qui était un faux Don Quichotte. Et lui a dû sortir très peu de temps après sa propre suite, où il mettait en abîme ce faux, où il y a donc un moment dans l'intrigue, un faux Don Quichotte et un faux Sancho Panza qui rencontrent les vrais. Donc tout ça n'est pas nouveau. Le point 2,
Oui,
c'est
c'est
évident.
l'imprimerie. Le parallèle court beaucoup en ce moment sur l'impact de l'imprimerie sur la société et l'impact de l'Internet sur la société. C'est la même impact à quelques centaines d'années près.
Citons un très bon papier de notre ami Christophe Lachnit de Super Perception sur le sujet. On va le mettre en commentaire. Donc le point 2, c'est évidemment Zuckerberg qui va sortir de sa bulle et qui va passer sur le grill devant le Congrès américain là, cette semaine à partir du 11.
C'est
Avant
le
de
10 et
rentrer,
le 11, je
c'est le
crois.
10 et le 11. Avant de rentrer dans les questions en fait que Bloomberg a listées et qui c'est le lien qu'on vous propose, je voulais simplement faire une introduction sur qu'est-ce qui va se passer au point de vue, on va dire, de la scénographie de tout ça. Expliquer ça à un public qui n'a peut-être pas vu ce genre de, on appelle ça des hearings, donc des auditions devant le Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants et leurs comités. Ce sont des choses qui sont assez théâtrales en fait, et cette scénographie, elle est importante. On a un rang impressionnant de représentants du peuple derrière des micros, dans une salle un petit peu austère, un petit peu majestueuse, et très souvent, on a donc l'élu, entre guillemets, du moment, là, Zuckerberg, qui va se retrouver face à eux sur une petite table, devant un petit micro, dans un décor qu'il connaît très peu, avec des journalistes, des photographes. Et on est là dans, de mon point de vue, quelque chose qui est à mi-chemin entre le battre sa coulpe protestant luthérien et l'autocritique maoïste. Donc ça va être assez intéressant.
Ça va être assez spécial.
Donc je te laisse nous présenter le lien de Bloomberg et un petit peu le wrap-up là, qu'ils nous ont fait de toutes les questions qui risquent de se poser.
Oui, en fait, ils font un vrai travail à la fois journalistique et un peu d'analyse aussi sur le fond. D'abord parce que tout le monde rêverait dans le journalisme d'avoir Zuckerberg sous pression, parce que là, ils ont fait un exercice d'excuse avec Sandberg. Mais sur le fond, il n'a pas dit grand-chose. Donc, ils espèrent que les questions qui seront posées par les sénateurs, les congressistes américains, tourneront d'abord sur les data et la privacy, qui est quand même la question majeure qui peut effectivement coûter très, 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 très cher à Facebook. Ensuite, ils appellent Russian Interference. C'est Mueller. Et donc, ça toucherait, si jamais il y a des révélations fracassantes, ça toucherait l'enquête contre Trump. Il y a l'impact sur la société. Et là, c'est plutôt le doc dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de basculer d'une société à l'autre derrière les agissements et les erreurs et les faiblesses de Facebook? Et puis une question qui est fondamentale pour l'avenir de Facebook, c'est la culture de Facebook, qui est une culture imprégnée d'arrogance, on l'a dit depuis le début, de naïveté aussi, très californienne. On change le monde, on fait les choses gentiment, donc plus rien ne peut nous arriver. Et il y a un dernier point qui correspond à ce que tu disais, qui est Advice for the Lawmakers, ça va être du show. C'est pas sans doute à cet endroit que les lois ou les régulations se décideront. parce que c'est un exercice, comme tu disais, de contrition. Mais je crois que c'est un des exercices, la catharsis de la démocratie américaine. C'est-à-dire, c'est là où se font ou se défont. Et ça a un rôle, je crois, très, très important pour toute l'industrie de la tech. Donc, on a vu un déchaînement cette semaine de tous les gens qui avaient essayé de parler ou qui n'avaient pas été entendus. Ça va être l'heure de vérité, je pense, pour le coup, au moins pour Zuckerberg. Et sans doute pour toute une partie de cette industrie qui, depuis 10 ans, caracole en tête. Il faudra aussi suivre, je pense, les cours de bourse, parce qu'il peut y avoir, notamment sur Facebook, un vrai effondrement.
Certainement, c'est intéressant de noter que Tim Cook, qui n'est quand même pas non plus un grand showman, a fait un town hall, c'est-à-dire une rencontre avec des journalistes et du public sur MSNBC cette semaine, interrogé par deux très 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 bons journalistes, Kara Swisher, qui est une spécialiste de la tech, et Chris Hayes de MSNBC. Et cette interview avait été un petit peu teasée quelques jours avant sa diffusion, où il y a eu ce dialogue un petit peu savoureux où Tim Cook clairement a, j'utilise l'expression américaine, mis Zuckerberg sous le bus, qui est une expression assez imagée pour dire qu'il en fait, lui, comme Benioff, comme d'autres, comme on le dit depuis le début de notre podcast, comme Musk, la victime sacrificielle, l'agneau sacrificiel finalement de la tech. Et Zuckerberg a répondu de façon très pincée, très blessée dans son honneur. Et c'est une des premières fois qu'on voit la tech finalement être scindée comme ça. Je n'ai pas souvenir, mais je me trompe peut-être, qu'en 98-99, quand c'était Bill Gates sur la sellette, tout le monde lui envoyait des pierres de l'intérieur de la tech. Je ne pense pas, je me trompe peut-être. Et s'il y a des auditeurs et auditrices qui se souviennent de ça différemment, qu'ils nous en parlent. Je voulais terminer.
Comme on l'a déjà dit ici, c'est, je pense, l'homme Zuckerberg et la structure de capital. La façon dont il a géré les choses qui sont en cause. C'est pour ça aussi qu'on voit une autre génération de managers taper. Et puis c'est aussi parce que il y a des gens qui ont effectivement pris des mesures extrêmement importantes sur la privacy et qui du coup en profitent pour marquer leur avantage. On n'entend parler ni de Microsoft, ni d'Amazon, ni de Google dans ce contexte-là. Il faudra voir s'il y a une suite ou si effectivement il n'y a que Facebook qui prend.
Alors justement, très bonne transition pour notre troisième point, un article très très intéressant de NPR, qui est la National Public Radio, donc un média assez particulier aux États-Unis parce que financé en partie par l'État, ce qui est très rare. C'est un article sur un avocat danois qui s'appelle Dan Scheffet, qui est basé à Paris et qui, d'après l'article, fait trembler les gens de Google en les faisant condamner devant la justice française, devant la justice européenne pour des manquements justement sur la protection des données personnelles qui, on le sait, en Europe sont tout à fait gérées différemment qu'aux États-Unis. Et ça va dans le sens de ce qu'on dit là depuis plusieurs semaines où on voit finalement, il y a un papier dans le New York Times qui fait écho à ça aujourd'hui et qui dit peut-être que c'est l'Europe finalement qui va donner le là où on sent quasiment une certaine abnégation américaine où ils ont des gave up, comme on dit, sur ce point. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses côté français, si
moi,
tu sens ça.
Plusieurs éléments, c'est tout à fait vrai que les Danois, les Allemands ont une approche extrêmement virulente concernant Google. Et il ne faut pas oublier que les initiatives qui ont été prises par l'Europe en termes de loi viennent d'individus qui ont posé la question et qui ont fait remonter. Et c'est une des premières fois qu'on voit l'efficacité de l'Europe sur le plan juridique. Il y a aussi un doc qui circule, donc là je retrouve le lien, qui raconte ceux qui ont fait monter ce qui est aujourd'hui la RGPD en prenant toutes leurs propres archives personnelles et en questionnant sur l'usage qui était fait de ces datas. Donc il y a effectivement une carte européenne, une carte du nord de l'Europe et une carte de justement luthérienne aussi. Et je crois que ce n'est pas du tout neutre de voir des gens qui ont une définition de la loi, c'est pareil pour Madame Vestager, qui est extrêmement forte, et qui vont utiliser la loi contre la technologie pour réguler au nom des citoyens. Donc je crois que c'est un tournant, parce que ce genre d'histoire, on avait l'habitude de les voir aux États-Unis, hein, le héros qui se lève, qui va au Sénat et qui porte la bonne parole face aux puissances. Et apparemment, bah, ça a traversé l'Atlantique cette fois-ci.
Ben sur ces bonnes paroles, on vous donne rendez-vous certainement au milieu de la semaine où on fera une édition spéciale à chaud sur les interventions qu'on espère très intéressantes de Zuckerberg devant le Congrès. Et je vous dis donc à presque la semaine prochaine.
Salut!
Salut!